le soir, repensons notre quotidien.
Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, on vous propose des analyses, des explications et des décryptages. C'est notre oreille sur l'actualité. Pendant les vacances, on vous propose une série de rétrospectives sur l'actualité qui a marqué cette année. Aujourd'hui, on parle de liberté d'expression et de la presse. Quelle influence la guerre en Ukraine a-t-elle sur le travail journalistique au quotidien? Comment réagir face aux pressions sur ces libertés? Les journalistes sont-ils assez protégés en Belgique? Éduque-t-on suffisamment aux médias? Je m'appelle Arthur Parzis. À propos, voici l'actualité comme vous l'entendez. Liberté de la presse, pression sur les journalistes, liberté d'expression, état de droit. En 2022, Le Soir vous en parlait. Voici les titres de l'année. 3 mai, liberté de la presse. La Belgique passe de la 11e à la 23e place du classement de Reporters sans frontières. 30 août, en Grèce, le Premier ministre fragilisé par un scandale d'écoute. 5 septembre, liquidation, condamnation, la pression s'accroît sur les journalistes russes. 21 octobre, au Maroc, la Belgique égratigne la liberté de la presse. 9 novembre, liberté d'expression au Qatar. Si tu parles, tu pars. Pour en parler avec nous, Christophe Berti, rédacteur en chef du Soir. Bonjour.
Bonjour.
Christophe, à l'écoute des titres des 12 derniers mois, 2022 aura été indéniablement une mauvaise année pour la liberté de la presse.
C'est sans doute une mauvaise année pour la liberté tout court. Globalement, on peut s'inquiéter de plein d'éléments qu'on voit à travers le monde. Et donc, par définition, la presse n'échappe pas à ce phénomène. Et c'est quelque chose, je pense, sur lequel on doit être extrêmement attentif. Parce que la liberté de la presse, c'est un bien précieux qu'on a en main et qu'on doit chouchouter.
Alors, cette année a bien sûr été marquée par l'invasion russe en Ukraine le 24 février 2022. Quelques jours plus tard, Moscou faisait un crime du partage d'informations considérées comme fausses sur les forces armées russes. Malgré cette menace, Le Soir est resté et reste présent à Moscou. La question s'est posée quant au risque de garder une présence en Russie.
Bien évidemment. Donc Benjamin Quenel l'a expliqué, notre correspondant sur place l'a expliqué longuement dans un podcast il y a quelques semaines. D'un côté, je pense qu'il est extrêmement important d'être sur place, de suivre le conflit, d'avoir le point de vue russe, de savoir comment les choses se passent à Moscou. Là-dedans, c'est le rôle de la presse. Comme quand on se dit, mais est-ce qu'on doit boycotter le Qatar? Je pense que s'il y a aujourd'hui un mouvement énorme sur le manque de respect du Qatar par rapport aux travailleurs migrants, par rapport aux minorités, par rapport à la planète, c'est parce que des journalistes sont allés sur place pour dénoncer ça. Donc l'état d'esprit est évidemment de rester à Moscou. Pour ce faire, il faut que plusieurs conditions soient remplies. C'est un, que notre journaliste sur place puisse faire son métier dans des bonnes conditions, parce que sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et deux, qu'on le laisse faire et qu'on puisse publier ses articles. Donc dans Le Soir, on a décidé, avec Benjamin évidemment, la décision lui appartenait, hein, d'abord, c'est des journalistes, c'est des hommes et des femmes de chair et d'os qui à un moment prennent des risques, et donc on ne fait pas ça à l'insu de leur plein gré, bien évidemment. Mais à partir du moment où il a décidé, et c'est un processus itératif plusieurs fois pendant l'année, on s'est dit, tiens, est-ce que ça va toujours? Est-ce que ça convient? C'est très très difficile d'être journaliste en Russie. Ça peut paraître comme ça théorique, ça ne l'est pas du tout. Il y a par exemple, pour les correspondants européens, s'ils n'habitaient pas en Russie avant, pas de compte en banque. Ils doivent se promener avec de l'argent cash et avoir le stress de cet argent pendant tout leur séjour en Russie. Par exemple, là-dedans. Aujourd'hui, ils ont des difficultés aussi pour le renouvellement de leur visa, qui est beaucoup plus compliqué, sur lequel il y a des pressions, évidemment, qu'il faut qu'on calcule, évidemment, dans l'équilibre entre, d'un côté, l'intérêt de rester à Moscou et, de l'autre côté, les conditions de travail des journalistes. C'est un équilibre qu'on doit gérer tous les jours avec les journalistes. Jusqu'à présent, Benjamin et nous avons décidé que cet équilibre était encore réalisé pour qu'il puisse continuer à faire son travail.
Alors, on l'a entendu, Reporters sans frontières a rendu son rapport sur la liberté de la presse. C'était en mai dernier. Et parmi les tendances du rapport, RSF pointait l'hostilité à l'égard des journalistes de la part de manifestants contre les mesures sanitaires anti-Covid. Est-ce que depuis, ce soufflet est retombé ?
Oui et non, c'est-à-dire que pour un journal comme le nôtre, il y a évidemment eu notre présence dans les manifestations, mais on est moins visible, entre guillemets, que les gens de la presse audiovisuelle qui ont des caméras, des micros pour lesquels c'était très difficile. Et en Belgique, des journalistes de la RTBF ou de RTL ont dû être protégés par la police pendant des manifestations. C'est quand même un élément qui est inquiétant si on retire ça du contexte Covid, si on réfléchit ça à froid, on se dit, mais enfin, c'est quand même incroyable chez nous. Mais on a subi aussi, on subit une violence assez importante sur les réseaux sociaux. Il faut pas sous-estimer ça. Dans la rédaction du soir, on a eu la chance ces dernières années d'engager de nombreux jeunes journalistes qui ont fait des études, qui sont brillants, qui sont pleins d'espoir et plein de volonté de faire du journalisme de qualité, et qui après un ou deux articles peuvent se prendre des monceaux de critiques totalement injustifiées sur les réseaux sociaux, et ils n'ont pas fait 5 ans d'études pour ça. Donc il faut, je passe aussi beaucoup de temps à protéger ces jeunes journalistes-là. D'une manière plus globale, il est évident que le Covid a été un accélérateur certainement d'une grogne qu'il y a dans la société, et souvent on tape sur le messager, hein, quand c'est comme ça, le messager c'est le journaliste.
Est-ce que les journalistes sont assez protégés en Belgique ?
Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une question que l'ensemble des rédacteurs en chef, et je veux leur rendre hommage ici, se pose, puisqu'on a multiplié les réunions avec les gens de La Libre, de l'Écho, de la RTBF, de RTL, de Sudinfo, etc., etc., pour d'abord partager notre ressenti et les exemples qu'on avait de pressions diverses et variées qu'on a pu subir pendant l'exercice de notre fonction. Et puis, on a rencontré le monde politique pour dire que on pensait évidemment que la protection des journalistes pendant leur travail est un élément important de la démocratie. Et de faire un peu comme aux Pays-Bas, c'est-à-dire un peu remettre, si vous voulez, les dossiers en haut de la pile pour que ça ne devienne pas une habitude d'insulter ou d'agresser des journalistes dans l'exercice de leur fonction.
Mmh. RSF pointe aussi des mesures liberticides prises par des gouvernements à l'égard de journalistes en Slovénie, en Pologne, en Hongrie par exemple. Et on peut aussi y voir que la Grèce atteint la 108e place, un record pour un pays européen. N'empêche, la Belgique est aussi tombée de la 11e à la 23e place. On aurait tort de se croire épargné en Belgique.
Exactement. La Belgique est un pays de cocagne pour les journalistes là-dedans. Je le pense vraiment. Et pourquoi je le pense ? Parce que on fait partie d'une association européenne de journaux qui nous permet d'échanger très, très régulièrement. La semaine passée, on a encore une grosse réunion ici à Bruxelles, avec des gens de La Repubblica à Rome, avec des gens du Die Welt à Berlin, avec des gens la Tribune de Genève à Genève, avec des gens du Figaro à Paris, avec des gens de Gazeta Wyborcza, excusez-moi pour l'accent, je ne parle pas le polonais, à Varsovie. Et on se rend compte en fait que dans ces pays, les conditions de travail sont parfois beaucoup plus difficiles qu'ici. L'ancien rédacteur en chef de La Repubblica, il était protégé par des gardes du corps 24 heures sur 24. D'un côté parce que son père avait été le premier carabinieri assassiné par la mafia, et de l'autre côté parce qu'il avait défendu la construction du TGV entre Lyon et Turin contre des volontés de gens plutôt d'extrême gauche de ne pas le faire là-dedans. Il y a plusieurs journalistes de La Repubblica qui sont aussi protégés parce qu'ils sont menacés par la mafia. Je ne vous parle pas de la Pologne où les gens de Gazeta Wyborcza ont le sentiment de défendre, et pas que le sentiment, de défendre la démocratie et l'aspect européen par rapport à un gouvernement qui leur fait plein d'ennuis. Quand je vois ça, je me dis, ben finalement, ici, on a peu de pression. Mais c'est pas parce qu'on dit ça, pour revenir à votre question, qu'en fait c'est éternel. C'est un bien précieux qu'il faut protéger. Et si on se dit finalement c'est pas si grave, on peut comprendre qu'on nous insulte pendant les manifestations, c'est pas si grave d'avoir sur Facebook ou sur Twitter des gens qui nous traitent de journalopes. Excusez-moi l'expression, mais c'est ça que je reçois moi personnellement, pas comme vu ma fonction de rédacteur en chef, de talibans, de journalopes, etc., etc. Il y a des choses qui sont odieuses ici. On a perdu deux journalistes qui sont morts cette année-ci, sur lesquels on a écrit des hommages, et sur les hommages, il y a eu des commentaires qui disaient qu'ils en allaient. Excusez-moi de la vulgarité, mais c'est important de partager ça avec nos lecteurs. On ira pisser sur vos tombes, ou on va pas pleurer pour un journaliste. C'est odieux, la plupart du temps, sans lire l'article, évidemment, sans savoir de qui on parle là-dedans. Donc, c'est un climat sur lequel on ne peut pas se résigner, en fait, là-dedans. Ce n'est pas normal. Si je descends dans la rue, je n'insulte personne. Eh bien, je n'insulte personne non plus sur les réseaux sociaux. Et donc, à un moment, je pense qu'il faut réagir, il faut ne pas laisser une impunité se faire pour qu'à un moment, on devienne le plus jingle de toutes les frustrations de la société.
2023 frappe à la porte, justement, pour l'année à venir, pour pour les années à venir. Quels moyens reste-t-il aux journalistes, aux médias pour contenir la situation, voire la retourner auprès de la population, auprès du monde politique?
Alors là, je ne pense pas que les médias tout seuls peuvent retourner une situation. On doit être là, nous, pour montrer que la société devient de plus en plus clivée. Et c'est un phénomène, évidemment, qui est plus important et qui dépasse notre profession. C'est un phénomène qui toucherait à l'éducation, au respect, à tout le monde doit donner l'exemple, en fait. Les journalistes, d'abord, les hommes politiques aussi. Je ne pense pas que réduire le débat politique à 140 signes sur Twitter pour se critiquer les uns les autres fasse avancer la démocratie. Et donc, j'ai pas une baguette magique pour dire maintenant, les journalistes, en 2023, on va avoir la paix. Mais je pense que notre rôle, en tout cas, nous, c'est un, de ne pas s'auto-censurer. Ça, c'est extrêmement important. Parce que ce qui est en filigrane de ça, ce qui est le danger, c'est de se dire, oh là là, je vais pas écrire un article là-dessus, ou je vais pas aller m'intéresser à ça, parce que sinon, je vais encore être ennuyé, ou insulté, ou agressé. Donc ça, collectivement, les journalistes, et en tout cas, moi, dans mon rôle ici, ont un rôle à jouer pour qu'on ne s'auto-censure pas. Et après, dès qu'un journaliste est victime de pression ou d'insultes sur les réseaux sociaux, l'organisation doit prendre sa place, en fait. C'est le message qu'on a donné ici. On a fait une charte de ça en bonne intelligence avec l'ensemble de la rédaction. Si un journaliste prend un bad buzz, entre guillemets, sur Internet, c'est Le Soir qui le protège. Il ne doit pas se mettre en premier rang là-dessus pour continuer à travailler et avoir la sérénité dans son travail.
Il y a la nécessité aussi d'une meilleure éducation aux médias auprès de la population, mieux expliquer ce qu'on fait.
Les réseaux sociaux et Internet, d'une manière générale, le digital, a incroyablement modifié notre vie et notamment notre rapport à l'information. Par contre, il y a très, très, très peu d'éducation aux médias, de la manière de reconnaître une vraie source, d'une source moins fiable, d'être dans le doute, de se dire que la modération, je parle pas de la modération des articles, je parle de la modération dans les propos, est une qualité, pas un défaut aujourd'hui, que c'est pas forcément celui qui crie le plus fort qui gagne, que c'est pas parce que vous voyez passer un truc liké 2000 fois sur Facebook que c'est vrai. Et je pense qu'il y a un énorme travail de l'éducation à faire dans les écoles et d'une manière générale dans la société sur les fake news et sur l'éducation aux médias. C'est comme ça qu'on s'en sortira. Et c'est pas une tarte à la crème, parce qu'on peut faire toutes les initiatives qu'on veut et chacun de son côté, chaque journal se défendre. Si à un moment les gens n'ont pas les codes de ça, ne reconnaissent pas de quelle manière ils peuvent être manipulés, ben ça va être très très compliqué dans l'avenir.
Alors Le Soir collabore souvent avec d'autres médias dans le cadre de l'ENA, du Consortium international des journalistes d'investigation par exemple, ou encore lors d'enquêtes communes. Est-ce qu'une des solutions serait d'aller vers plus de collectifs ?
Pour moi, depuis que je suis rédacteur en chef il y a bientôt 10 ans, j'ai deux certitudes. J'ai beaucoup de doutes, et je pense qu'il faut avoir beaucoup de doutes, d'abord par rapport à ses propres opinions quand on est journaliste, ceci est dit au passage. J'ai deux certitudes. C'est un, le métier est un métier qui est devenu de plus en plus collectif. L'image d'Albert Londres qui envoie ses papiers depuis les tranchées, ça n'existe plus. Alors il y a encore plein de journalistes de terrain, c'est évidemment pas ça que je veux dire là-dedans, et c'est extrêmement important, mais aujourd'hui, il y a plus dans deux têtes que dans une. La transversalité des sujets est importante. On l'a vu pendant le Covid. Le Covid, c'était pas un sujet politique ou de santé ou sociétal ou culturel ou sportif. C'était tout en même temps. Et donc, il y a un besoin de transversalité et de collectif. Et puis, il y a un besoin de collectif aussi parce que la manière de diffuser l'information, avant, était linéaire. On écrivait un article, on le mettait dans le journal papier, on le diffusait et puis voilà. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a le site internet, il y a l'application, il y a les newsletters, il y a le papier. Et donc, il y a une expertise d'édition qui est extrêmement importante, et donc les journalistes doivent d'abord travailler entre eux, ceux qui écrivent, pour avoir plus de sources et avoir une vision plus holistique des sujets, mais après ils doivent travailler main dans la main avec l'édition. Ça c'est en interne. Mais par contre, et ça c'est le deuxième point que je voulais développer, c'est que depuis que je suis rédacteur en chef, on a développé des synergies dans le groupe, Rossel, on a développé des partenariats avec le Standard, pour ne citer qu'un exemple, le côté du nord du pays c'est extrêmement important. On fait partie de l'ENA, donc c'est une alliance européenne avec les journaux que j'ai cités tout à l'heure, sur lesquels on échange des articles. Ça nous permet de faire le supplément du samedi qui permet à nos lecteurs d'avoir des articles venus de ces journaux prestigieux en Europe et d'avoir une autre vision des choses que la vision purement belge là-dedans. Mais on s'échange aussi des aspects stratégiques et ce genre de questions sur comment vous faites pour protéger vos journalistes, comment vous faites pour l'évolution de vos rédactions. Et puis, Il y a aussi, on fait partie de deux consortiums internationaux d'investigation. L'investigation dans le journalisme, ça coûte beaucoup d'argent. C'est difficile, évidemment, pour des journaux de notre taille, même si on a plus de 100 journalistes, de pouvoir dire, vous allez enquêter pendant 6 mois sur un sujet sans savoir s'il va avoir quelque chose ou pas. Et donc, le fait de le faire ensemble, évidemment, je suis admiratif du travail de ces journalistes chez nous. On a une cellule enquête et on participe aux Football Leagues, aux Panama Papers, aux Uber Files, pour citer le dernier. Donc oui, je pense qu'un journal, ça doit être ouvert. Je pense qu'un journal ne peut pas... Elle serait très orgueilleux de penser qu'il sait tout seul et qu'il peut tout faire tout seul. Et je pense que le collectif est une richesse.
Et de la même manière, est-ce qu'au niveau législatif, la solution peut passer aussi par l'Union européenne, par l'Europe ? Est-ce qu'on sent une réponse de ce côté-là ?
Le grand débat en Europe, c'est aussi la défense des médias européens sur leur indépendance financière et sur leur capacité à ne pas être pillés dans leur contenu et dans leur publicité par les GAFA. Aujourd'hui, des entreprises comme Google ou Facebook ont d'énormes revenus publicitaires sur le marché belge en donnant peu d'emplois, beaucoup moins que l'ensemble des médias francophones, et donc ne participent pas au bien commun, aux impôts et au développement local. Et donc il y a un élément là qui est très très important. Alors l'Europe ne reste pas les bras ballants, mais c'est une guerre qui est énorme. Et pour moi, on a plus besoin que l'Europe défende financièrement les médias européens que d'avoir des règles qui seraient même difficiles à appliquer sur la défense des journalistes.
En fait. À la veille d'une nouvelle année, vous, en tant que rédacteur en chef d'un journal comme Le Soir, qu'est-ce qui vous donne de l'espoir ?
Ce qui me donne de l'espoir, c'est que plus que jamais, on a besoin des journalistes. Plus que jamais, on a besoin de journalisme de qualité. Plus que jamais, on le voit dans le monde qu'on traverse, un monde qui est en changement. Alors, le monde a toujours été comme ça, mais les crises s'accélèrent très clairement. Le populisme monte. Hein, si vous regardez les élections en France et en Italie, pour ne citer que deux exemples cette année, évidemment, les résultats sont sans appel. Même si Marine Le Pen n'a pas gagné, non seulement elle s'est installée au Parlement, mais elle marque les esprits et marque des points pour la suite, certainement. Je pense vraiment que le journalisme de qualité est un élément important de la démocratie. Et plus que jamais, les gens qui disent que le journalisme est mort ou que les journalistes, c'est fini, c'est totalement faux. On n'a jamais eu autant de lecteurs au Soir. On a vu que, et je peux parler de confrères aussi, les journaux de qualité sont sortis plutôt vainqueurs de la crise du Covid, parce qu'on, contrairement à tout ce qu'on peut entendre et lire à gauche, à droite, ne croyez pas les rumeurs qui disent qu'on est mort, on n'est pas mort du tout. Et mon grand espoir, c'est que une grosse partie de la population sent qu'elle a besoin d'informations de qualité et que l'information, c'est important.
On finira cette interview sur cette note d'espoir et note positive. Merci Christophe d'avoir répondu à nos questions.
Merci Arthur.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 7h. En attendant, abonnez-vous, partagez-nous. Vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. À demain.